Vos questions dès 17h au 01 45 24 7000 ou toute la journée sur franceinter.fr.
Le téléphone sonne. Pierre Veille, ce soir sur France Inter, à partir de 19h20.
Bip sur Inter, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut Daniel. Alors comme ça, Bernard Arnault envisagerait de quitter la France pour la Belgique, pour des raisons fiscales, pour payer moins d'impôts. Mais il a raison. Il a mille fois raison. Regarde, il va habiter tranquille en Belgique, payer ses impôts là-bas. Et en France, il pourra continuer bien aller dans les hôpitaux, s'il veut, de circuler sur les routes qui sont entretenues avec mes impôts. Oui, tout ça sera entretenu par mes impôts à moi. Moi, le pauvre couillon qui ne peut pas s'exiler, parce que finalement, j'ai rien à cacher, et puis j'ai pas de blé, tout simplement. Donc, c'est mes impôts qui continueront à le payer. Hôpitaux, les routes, l'école, s'il veut, et tout ça. Et puis là, Daniel, c'est quand même historique, Bernard Arnault va trouver un point commun avec toi, notamment sur quelque chose se passant aux États-Unis et qu'il ne souhaite pas que, eh bien, on ait la même chose en France, c'est qu'aux États-Unis, un exilé fiscal, eh bien, on lui pique son passeport. Alors qu'en France, oh là là, t'imagines avec l'Europe leur donner des sanctions? Mais mon Dieu, ce serait une entrave à la libre circulation, à l'économie et tout ça. Rien à faire. On pourrait très bien envisager de réduire son taux de résidence maximum à 2 mois ou lui piquer sa carte d'identité, l'empêcher de voter. Mais là, avec l'Europe, c'est pas possible. L'Europe, c'est pas possible. Elle est là pour nous protéger, pour protéger les riches. Merci l'Europe. Merci Bernard Arnault. Et merci la Belgique.
Monsieur Arnault, notez ça quelque part. 07 63 07 99 14. C'est le numéro de téléphone de mon fils. Parce que vous voyez, à l'heure où vous et vos millions d'euros cherchez à partir en Belgique, lui, bêtement dans les Yvelines, ne trouve pas se loger. Comme des milliers d'autres. Vous me direz, ce n'est pas votre problème. J'en doute pas, on ne vit pas dans le même monde. Sauf que ce n'est pas seulement du patriotisme de payer ses impôts dans le pays qui vous a éduqué, soigné, transporté pour faire votre business. C'est payer son dû. Passez-lui donc un coup de fil entre deux optimisations fiscales. Aucun doute, son quotidien va vous paraître follement exotique. C'était Christine du Limousin.
On vient d'apprendre au journal de la 2 que Bernard Arnault aurait demandé la nationalité belge. On nous explique que c'est souvent le pas pour pouvoir ensuite devenir monégasque. Et donc échapper à l'impôt et aux 75% que François Hollande envisage d'appliquer pour les revenus au-delà d'un million d'euros. Partout, on va entendre combien ce pauvre Bernard Arnault va devoir payer d'impôts. C'est une erreur fondamentale. Sachant que la moyenne des Français est à 1600 euros, ça va nous paraître démesuré, on va dire, mais ils sont complètement fous. En fait, il faut qu'ils nous disent combien il reste à Bernard Arnault après impôts. J'espère que là-bas, si j'y suis, nous l'expliquera. Combien il lui reste encore, même que sa dernière tranche au-delà d'un million, c'est à 75%. Je crois qu'on verra les choses différemment. Salut à tous.
Louis XVI tentait de fuir à l'étranger quand il fut arrêté à Varennes. À la suite de cela, il y perdit sa tête. C'est exactement ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, avec les goujats qui veulent quitter le pays, qui nous doivent tout, fortune et prestige, chanteurs, sportifs, grands patrons et tant d'autres qui nous narguent.
Monsieur le Président, il faut augmenter les minima sociaux. Parce que vivre avec 484 euros, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Allez, monsieur Hollande, faites quelque chose. Parce que là, c'est plus possible. Au revoir.
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. Je téléphone pour annoncer le repère des amis de là-bas si j'y suis, à Nîmes, qui sera ce mercredi 12 septembre, à partir de 19h, au bar des Ramblas, comme d'habitude. Et venez nombreux pour cette réunion de rentrée.
Bonjour à tous. Je vous informe que le 17 septembre prochain, à Valence, le 1er régiment de Spahis préparera un exercice dans les rues de cette ville. Ce sera 800 hommes, 120 véhicules qui seront mobilisés pour cette manœuvre qui est appelée Spahis Vaillant. Le scénario prévoit le franchissement du Rhône, puis la prise des points clés de la ville, l'évacuation d'une centaine de ressortissants. Le dernier jour, un exercice de neutralisation des belligérants, lequel fera appel à des réservistes. Alors, le premier SPAHI est composé de 3 de ces 5 escadrons de combat sont équipés de chars AMX et 10 RCR. Je vous engage à aller voir sur Internet à quoi ça ressemble. Ben voilà, ils font des exercices à Valence. Et c'est pour préparer le déploiement à Djibouti officiellement. Sinon, je sais pas, des émeutes de la faim, des révoltes de chômeurs, d'ouvriers. C'est le premier régiment de SPAHI qu'on enverrait. Bonne chance à tous. Ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci, merci, merci. Nous voilà repartis sur les routes du monde. On vous concocte et on vous prépare un tas de choses et ça nous donne l'occasion de réécouter les grands moments de là-bas si j'y suis. Et celui-là, c'est un moment auquel nous sommes particulièrement attachés. C'est un simple entretien avec Cornelius Castoriadis qui date de 1996. Et à peu près chaque année, nous vous faisons à nouveau entendre cet entretien, vous allez voir, rien n'a bougé, rien n'a vieilli dans ce que nous dit Cornelius Castoriadis. Je fais « parce que j'allais dire philosophe, mais j'aurais pu dire politologue, j'aurais pu dire économiste, j'aurais pu dire psychanalyste. Cornelius Castoriadis, qui est mort en 97, était qualifié par son ami Edgar Morin de « énorme » ou « hors norme ». Et c'est vrai qu'il a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de la pensée, mais de façon, disons, polymorphe, sous bien des aspects. L'une de ses têtes de Turc en 79 était un certain Bernard-Henri Lévy. En 1979, il disait, oui, mais enfin bon, la Kaamelott de ce gars-là n'a pas d'avenir. Et au moins sur ce point-là, j'espère que c'est le seul, Cornelius Castoriadis s'est trompé. Là, c'est un entretien qu'il m'avait accordé à la suite de la publication d'un ensemble de textes intitulé « La montée de l'insignifiance », mais dont le titre pourrait être plutôt « Se reposer ou être libre ». Se reposer ou être libre, ça c'est une phrase étonnante. On était l'an passé à Athènes et on discutait avec les réalisateurs de ce film formidable qui s'appelle « Deptocratie ». Et on demandait aux réalisateurs la raison pourquoi ils avaient fait ce film. Et ils nous disaient « Ah, c'est à cause de Thucydide. Thucydide disait « Il faut choisir, se reposer ou être libre ». Alors nous, on était très impressionnés, on est en Grèce, voilà qu'on évoque les grands philosophes. Et je demande aux réalisateurs « Mais où est-ce que vous avez entendu cette phrase-là » Ils disent « Ah, j'ai entendu cette phrase-là alors que j'étais en voiture en France, dans une émission où parlait Cornelius Castoriadis. Donc on avait, vous avez compris, la boucle était bouclée. Castoriadis citant Thucydide, dans la base, si j'y suis, et ce réalisateur grec passant en France, utilisant cette phrase à Athènes pour justifier, pour expliquer son film. Se reposer ou être libre, voilà notre choix, c'est le titre de cet entretien qui a été déjà très écouté, mais que nous aimons diffuser à nouveau chaque année. Vous allez voir que rien n'a vieilli dans ce qui est dit là. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Je te téléphone, Daniel, de l'île de la Réunion. Ça fait des années que j'écoute ton émission. Et celle de vendredi sur l'image du père m'a particulièrement ému. C'était les 12 ans de ma fille ce jour-là et on préparait l'anniversaire ensemble puisque la maman, là, elle est en métropole. Reviens vite, Doudou, tu nous manques. Et puis, il y a eu ce témoignage bouleversant de cette jeune fille qui a perdu son père à Auschwitz. Et c'était terrible. Et c'était terrible. J'en tremble encore. Merci, Daniel, de nous balancer des trucs aussi forts. Merci.
Oui, bonsoir, Daniel. Bonsoir, toute l'équipe. Je suis en train d'écouter votre émission sur les pères et les filles. Voilà, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans. Je suis une grande, je suis vieille, je suis 56 ans. Mais c'est toujours là. Et voilà, donc j'écoute l'émission, je pleure. Et merci pour cette émission.
Oui, c'était une bonne émission, là, monsieur Mermet. Je dois dire que ça change de Mireille Dumas, quoi. Et moi, j'ai essayé de faire le jeu, là. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les filles qui sont autorisées à penser à leur papa. Moi, je vois une photo, il y a de l'ombre. C'est l'ombre, c'est la nuit. Et puis, il y a un visage qui émerge un peu de la nuit, à peine plus clair que la nuit. Il me semble qu'il sourit. Mais je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être une sorte de rictus. Ou... Je n'en sais rien, mais enfin, quelque part, c'est un bon jeu auquel je n'avais pas pensé. Pourtant, je me suis beaucoup interrogé sur mon père pendant des années, comme vous dites, sur les divans. Et ça aide, oui, ça aide beaucoup, mais comme vous dites, il reste des plis. Alors, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est une bonne émission, quoi. Donc, moi, je n'ai pas connu mon père, quoi. Voilà, c'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Après la braderie, c'est la rentrée. Donc ce soir, 20h, au Café Repère, l'imaginaire dans le vieux Lille, les vraies motivations de notre ami Bernard et bien d'autres sujets. Retrouvons-nous donc nombreux à l'imaginaire ce soir à 20h.
Bonjour les amis, bonjour Daniel. Dans notre beau pays de France, pourrait se tenir prochainement un premier procès sur l'amiante. Et à notre stupéfaction, ce premier procès serait en fait celui de l'avocat de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, mis en examen pour une plainte de la société Eternite, qui l'accuse de diffamation. On marche vraiment sur la tête. Enfin, on ne va pas laisser faire. Allez, bonne journée à tous. Merci.
Daniel, j'ai une petite histoire à te raconter. C'est l'histoire d'un camion qui transporte un trou. Il roule sur la route, et il se prend une bosse, et il y a le trou qui tombe du camion. Alors le camion, il recule pour ramasser le trou, et le camion, il tombe dans le trou. C'est Bobby de Vienne.
Λέγομαι Άρης Χατζηστεφάνου και είμαι ένας από τους δημιουργούς του Ντετόκραση.
S'appelle Άρης Χατζηστεφάνου et moi je m'appelle Κατερίνα Κιτίδη. On a écrit Ντετόκραση, le film ensemble et on a réalisé le film ensemble.
Pourquoi vous avez voulu faire ce film?
Ξέρετε, ο Θουκυδίδης έλεγε παλιά ότι πρέπει να διαλέξετε ή θα είστε ελεύθεροι ή θα είστε ήσυχοι.
Thucydide a dit qu'on doit choisir si on sera libre ou on sera calme.
Tu sais qui m'a appris cette phrase? C'est un grec qui s'appelle Cornelius Castoriadis.
Υπήρχε μια συνέντευξη του Καστοριάδη σε ένα γαλλικό ραδιόφωνο, από την οποία την άκουσα και εγώ.
Il y avait un interview de Castoriadi à la radio française. Et il a entendu cette phrase aussi par la radio française.
C'est dans notre émission. Attends, la phrase est venue par nous. Tu sais ce qu'il avait dit, Castoriadis, à la suite de cette émission? C'est une bouteille à la mer qui arrive à bon port. Et la bouteille à la mer est revenue en Grèce.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore.
La démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. 60% des députés avouent qu'ils ne comprennent rien à l'économie. Les députés en France. Et ceux-là, ils vont décider, ils votent. Voilà, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. C'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, ils ont. C'est très drôle. Parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences.
Permettez que je prenne la parole.
Mais,
au nom de la liberté, s'il vous plaît.
Allez-y.
C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Feu Cornelius Castoriadis, la montée de l'insignifiance.
Flight number 2, arriving from New York.
Les discussions de comptoir ne concernent pas que les cafés. J'ai roulé ma bosse des ghettos pas clés aux rues pavées. J'ai ouvert l'oreille aux sornettes, aux balivernes, aux mythos qui rentrent dans le cerveau à la façon d'un fourré. J'entends les énormités qui font l'unanimité, viennent nous défier si loin de la vérité. On aime croire aux idées de ceux qui veulent pas hésiter, dont l'assurance cache le visage de la stupidité. Moi je suis dans le doute, l'air vacillant et fébrile, dans un monde où ça fait stupide, voire débile. Dire je ne sais pas, c'est être banni, voire l'exil. Et trop réfléchir, c'est donner l'air qu'on se défile. Le cliché s'apprivoise quand la vérité se rebelle. La vérité s'envole et notre réflexion bat de l'aile. Je veux être celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, moi j'ai des questions pour elles. J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chair, ma raison sentent l'emprise d'irritation. M'enfonce dans la solitude, loin de leur certitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis. Dans le jeu social, poser le doute est mal poli. Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir. C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires. La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité. Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister. Je casse le délire de ceux qui suivent les on-dit. La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit. Et si la vérité blesse, que le doute querelle. Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle. Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elles.
Caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire bon, la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement, elle a perdu son sens. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon, manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance? Par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance? Puisque c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose. C'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils n'ont aucun programme, quoi. Ils n'ont pas vraiment de programme. Leur but... c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça ils sont capables de tout. Clinton par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça, si je dis si, qu'est-ce qui va se passer, en prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. C'est-à-dire, comme disait l'autre, je suis leur chef donc je les suis, quoi. Bon, mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire, comme dans toutes les époques d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de, comment dire, de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas, dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps, c'est sans aucune conspiration d'une puissance... quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire la signifiance. Bon, la politique, c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Mais ça a toujours été un métier bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner. Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon. Or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Vous voyez ? Alors... Dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi? C'était flatter le roi. C'était dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pas Pompidou, Pompadour. C'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, et Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle ne mérite pas ça. Bon, et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie, on attaque la classe politique, d'accord, c'est une tradition, là vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion, mais il y a l'opinion, il y a les citoyens, qu'est-ce qu'ils foutent ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose, parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes, ou des intérêts particuliers, ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Et vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent. Bon. À suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins, et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, mais autrefois, c'était pas mieux au sens, c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui, je dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification. Ils disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Vous voyez? Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, on n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est tout à fait liée à celle-là, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidéré, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. Tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas ? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dîner une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons. Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc. Bon. Et puis, dans l'effondrement, mériter une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce qu'un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Bon. Alors, donc, comment voulez-vous ? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer, mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous me parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels ? Bon, alors, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français ? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe, parce que finalement le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, est-ce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il ne s'est pas effondré ? Parce que les travailleurs ont lutté, ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. Donc, il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, moi je ne vois pas comment l'Europe en tout cas pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, ce n'étaient pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit « Bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché, à la longue, vous garantit le bien-être. »
Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme ?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. Elle est unique, c'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas ? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à sa grande époque ?
1850 ?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on croyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, disons John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois une élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous. Mais même quand on ne s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit, les ouvriers ne peuvent pas voter. parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après on a dit bon non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, enfin qui se diffusent comme ça dans la société, la science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc.
Pas mal.
C'était pas mal, sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que le reste s'est réalisé, mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire c'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est une, comment dire, l'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation, même chez les représentants du libéralisme. Puis j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de loin pire. C'est ça le grand argument.
Oui, ça se résume à ça.
C'est... Hein?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ça... C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. Ils se disent, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à un nouveau goulag, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque. Et je crois qu'on en sortira que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut qu'il y ait, il faut attendre, il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une ressurgence à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens, une participation des gens.
Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commande la grève, c'est nous. Qu'il monte sur le mur comme tout le monde, au nom de la démocratie. Il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Il n'a pas le droit, ça se fait pas, au nom de la démocratie. Quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment. Versons-leur un acompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. Au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra, au nom de la liberté. Camarades, nous ne pouvons pas accepter la division jusqu'à maintenant. Nous avons décidé de la grève ensemble, nous avons exposé nos revendications ensemble, nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
Entretien avec Cornelius Castoriadis, 25 novembre 1996.
Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois... La politique, c'est un domaine où il faut être généraliste, hein, et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste, c'est un petit peu tout sur mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste, il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout avec cette contradiction un bon citoyen?
Ce dilemme posé comme ça est posée depuis Platon. Oui. C'est pour ça que Platon disait c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce qu'eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'était précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens ? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections. Hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon, ils ont peut-être eu tort, mais ils ont inventé les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes ? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde... Bon, Aristote. Citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialistes. Et pourquoi c'est pas une affaire de spécialistes ? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vais vous faire remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialistes de la politique et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide. Et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous. Ils ont quand même fait des choses assez considérables. Ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des padaises. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre... Il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur ?
Alors, sur quoi on se base ?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là ?
Voilà. Alors là, mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez ? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement ? Ben, en gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, 60% des députés avouent qu'ils ne comprennent rien à l'économie. Les députés en France. Et ceux-là, ils vont décider, ils votent. Voilà, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., ça, c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, ils ont, c'est très drôle, parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi je l'ai suivi dans d'autres circonstances, vous voyez que quand vous dirigez, bien sûr, vous fiez aux experts. Et vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc vous trouverez toujours un économiste pour vous dire, oui, oui, il faut faire ça. Ou un expert militaire qui vous dit, oui, il faut l'armement nucléaire, ou il ne faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi, vous voyez. Bon, c'est un jeu complètement stupide, et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement, plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon. Les spécialistes des généralistes. Les spécialistes au service des gens. C'est ça la question. Pas de quelques politiciens et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.
Éducationnel, vous avez dit, et vous dites, c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quel mode d'éducation vous voyez ? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez ?
Non, moi je pense...
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je ne préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette... participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, Donc ça, c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués, et soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça. L'éducation, on leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabète, hein. Il n'y avait aucun alphabet, tous à peu près tous savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction. Vous ne connaissiez pas la loi. On vous dit « vous êtes censé ne pas l'ignorer ». Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68. Hein.
Oui.
Je reviens à Morin. Oui. Vous aviez appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça?
Oui, oui.
Une brèche. Si on repense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète.
Oui.
Bon. Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ?»
Oui, vous avez raison à d'un certain point de vue, qui est très important. Vous avez raison parce que... Mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie dans le sens strict, j'allais dire dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est parce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça, ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ.
Mais l'homme est un animal religieux.
L'homme est un animal religieux.
Aristote. C'est pas un compliment, mais...
Non, c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer et que je vénère énormément, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse... Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, mais enfin, ça va pas. On dit l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier, au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'International, qui est quand même le chant de la Commune, hein, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord, excite la religion. Ni César excite Napoléon III, ni Tribun excite Lénine. D'accord?
Ah, j'avais jamais pensé à ça.
Eh oui, mais les gens y pensaient. Or, les gens avaient ce besoin de croyance. Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68? Je crois que peut-être le résultat, à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société, c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques.
Ah,
ça c'est très important. Alors il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez, ou le fondamentalisme, ça c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous, pas tellement quand même. Bon, mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques, ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que... C'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens. Il dit « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. »
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah, oui.
Il dit « Les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne, à ne rien faire, parce qu'ils se disent il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. Bon, or précisément, actuellement, on traverse aussi une phase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grands discours, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et c'est ça qui n'existe pas, de moins, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore.
Vous êtes psychanalyste aussi, hein,
oui.
Ce qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne.
Peut-être, oui.
Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce...
Qui délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui. Nous qui délirons sans fin.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que, de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir. Enfin, et encore. Là, vraiment, je ne sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On ne parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Or, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération, dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes, qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray. Dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une petite duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines. Et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez? Or, cette libération est en un sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des mes très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Mmh. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme j'ai dit, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il ne faut même pas essayer de faire, ou qu'il ne faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris, que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Eh bien, je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez ? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation, de la camelote, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et tout, dans cette pièce, chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne, effectivement.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça, c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Il est très facile d'être...
Démocratie, difficile.
Démocratie difficile, parce que liberté, liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours.
Sacrés ancêtres, hein.
Hein, sacrés ancêtres. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité. Ce n'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que... Elle peut tout faire, mais elle ne doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
Oui. La liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité. Et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée. Et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.
Encore ce matin, un intellectuel à gage qui étalait à la radio le contenu de son bagage. Il justifiait, oui, il cautionnait l'ignorance et la misère. Il se croyait nouveau, ce laveur de cerveau, il n'était que réactionnaire. Je n'ai pas droit à la paresse. Que l'aliénation progresse, hein, ça correspond à mes fibres, se reposer ou être libre. Je vomis la nomenclature qui préfère l'ordre à la justice, se faisant flatter sur les plateaux télé par ses lapins de service. Plus encore que sur Dieu, pathétique fiction, je pisse sur ses prophètes, dont les obsessions misogynes terreur étouffent la planète. Je n'ai pas droit à la paresse, tant que l'aliénation progresse, un jeu correspond à mes fibres, se reposer ou être libre. Surtout pas, non, ne surtout pas, ne pas refuser d'apprendre. Parce que je veux, oui, je peux même commencer à comprendre. Résister, oui, encore résister à la propagande orthodoxe. Monter ma garde, oui, monter ma garde, comme dans un combat de boxe. Je n'ai pas droit à la paresse tant que l'aliénation progresse. Un choix correspond à mes fibres, se reposer ou être libre, se reposer ou être libre, se reposer ou être libre, se reposer ou être libre.
C'était Se reposer ou être libre, une nouvelle diffusion d'un entretien de Daniel Mermet avec Cornelius Castoriadis, entretien réalisé le 25 novembre 1996. Vous retrouverez toutes les informations relatives à cette émission, mais aussi bien plus sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org et sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Sandrine Laurent. Réalisation, Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulto. Et c'est Solène Cordier qui attend vos messages et vos réactions sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Camille Redouble, une comédie de Noémie Lvovsky avec Noémie Lvovsky, Samir Ghesmi, Yolande Moreau, Denis Podalydès, au cinéma le 12 septembre. Camille a 16 ans lorsqu'elle rencontre Eric. Ils s'aiment passionnément. 25 ans plus tard, Eric quitte Camille. Le soir du 31 décembre, elle se trouve soudain renvoyée dans son passé.
Je suis en train de revivre mon passé. J'ai pas 16 ans, j'ai 40 ans.
Et si on pouvait tout recommencer ?
Qu'est-ce que tu ferais ? Si tu savais toute ta vie à l'avance.
Retrouvez Noémie Lvovsky le 11 septembre à 9h10 dans Comme on nous parle.
Viva l'opéra ! La saison d'opéra filmé reprend au cinéma à partir du 19 septembre avec les Contes d'Hoffmann, Carmen ou Falstaff en direct de l'Opéra Bastille, La Chauve-souris à Vienne, Othello à Salzbourg, La Valkyrie à Milan, le tour des plus grandes scènes lyriques. Toutes les infos sur ugc.fr et francemusique.fr. Un événement France Musique.
Après le journal, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Et le flash vous est présenté par Laetitia Gaillet.
5 offres de reprise partielle du pôle frais de 12 sur 8 ont été validées cet après-midi. Décision du tribunal de commerce de Quimper. On limite la casse, mais pas la colère, Anne Tréguer.
Un peu plus de 700 emplois sauvés sur 1700. 5 sites sont repris encore partiellement. Laval, Séran, Blancafort, Plocadoc et Boine. 3 sont entièrement sacrifiés, La Vraie-Croix, Grincourt et Le Pontet. Ce n'est pas une surprise pour les salariés qui espéraient toutefois que le tribunal de commerce de Quimper limite un peu mieux la casse. C'est donc un dépeçage de la filière frais du groupe Doux. LDC, Glonfanders, Duc et Galina se partagent le gâteau, mais à quel prix socialement ? Les représentants des salariés n'ont pu cacher leur colère et demandent expressément au gouvernement une table ronde pour sauver ce qu'il reste de la filière avicole française. Une rencontre est d'ores et déjà prévue demain matin avec Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire, et les organisations syndicales du groupe Doux à Rennes au SPACE. Mais cela suffira-t-il ? Quimper, Anne Tréguer, France Le Brézizel pour France Inter.
Les substances retrouvées au domicile des Halili, les victimes de la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie, ne sont finalement pas dangereuses. La maison dans la grande banlieue de Londres et son entourage ont dû être évacués une partie de la matinée pour laisser place à des artificiers et à un camion de déminage. Le dispositif de sécurité a été levé en début d'après-midi. Les talibans menacent aujourd'hui d'enlever et de tuer le prince Harry, le petit-fils de la reine Elisabeth, troisième dans l'ordre d'accession au trône britannique. A été envoyé en Afghanistan la semaine dernière comme pilote d'hélicoptère. La mission est censée durer 4 mois. À Londres, le ministère de la Défense a refusé de commenter la menace. Lors de sa première mission, le prince Harry avait déjà dû abréger sa mission pour des raisons de sécurité. Les parlementaires somaliens votent actuellement. Ils sont appelés aujourd'hui à donner un nouveau président à la Somalie. Président qui aura pour mission de rétablir une autorité centrale dans un pays en guerre civile depuis 21 ans. 25 candidats sont en lice pour le poste. La réponse de la Chine au Japon cet après-midi, pas question. La Chine ne cédera jamais 1 cm² des îles que Tokyo veut acheter aujourd'hui. Ce matin, le Japon a annoncé son intention d'acheter ce petit morceau de territoire que Pékin revendique comme étant le sien. En France, la présentation de la circulaire qui doit restreindre l'usage des peines planchers et insister aux aménagements de peines, elle est reportée à nouveau pour la troisième fois. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, devait faire une communication sur le sujet mercredi en Conseil des ministres. Mais le Conseil des ministres de mercredi sera consacré aux sujets économiques et sociaux, en fait dans la foulée de l'intervention télévisée d'hier soir de François Hollande. Pas content, les avocats du barreau de Nancy, Laurent Hénard, ancien député PR de Meurthe-et-Moselle, est devenu avocat aujourd'hui après avoir prêté serment. Il est le premier ex-parlementaire à bénéficier d'une procédure simplifiée d'accès à cette profession, ce que dénoncent ses nouveaux confrères qui ont déserté symboliquement la cérémonie. Pour eux, il y a une rupture d'égalité manifeste d'accès à la profession d'avocat. Ancien député et secrétaire d'État, Laurent Hénard a fait valoir qu'il était titulaire d'un bac plus 5 en droit et qu'il a exercé la profession de juriste d'entreprise dans une banque pendant 4 ans dans les années 90. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit...
Que pourrais-je bien te raconter ?
Alexis HK.
Pour rassurer tes yeux ombrageux.
Marcella.
Que veux-tu, ma douce ? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin.
Et Ustiax.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Et sur France Inter, c'est l'heure de Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible, on va dire, pas le mieux du monde, mais le mieux possible, et nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Et nous allons pouvoir entendre aujourd'hui des nouveautés, oui, le disque continue vaillamment son chemin, le disque, les fichiers maintenant aussi, enfin bon, la musique, quel que soit le support. Et voici qu'une maison de disques tout à fait vaillante, qui s'appelle Lyrinx, nous propose deux grands pianistes, deux grands artistes, Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser. Ils se connaissent merveilleusement, mais la complicité dans la vie ne suffit pas forcément à provoquer la complicité artistique et musicale, mais là c'est certain, ils jouent vraiment de bon cœur et ils ont choisi Johannes Brahms, c'est notamment les variations sur un thème de Haydn, donc on sait que le thème n'est pas de Haydn, c'est un motif plus ancien que cela, mais peu importe, le principal c'est ce que Brahms en a fait. Il y a une œuvre superbe pour l'orchestre, mais il ne faut pas oublier cette version pour deux pianos interprétée donc par Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser.